Chaque jour, des hommes et des femmes contribuent au bien de leur communauté par la promotion des valeurs. Ces hommes et ces femmes transforment et impactent positivement la société. Ces entrepreneurs sociaux, ces modèles de réussite méritent tous les honneurs dans La Paix en Chanson. La Paix en Chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly. La paix en chanson.
Il fait partie des pionniers dans le domaine des startups en Côte d'Ivoire. Il cumule plus d'une douzaine d'années d'expérience dans l'agritech. Ingénieur informaticien à la base, il a très vite compris l'importance et la force de l'entrepreneuriat social. Et dans cette dynamique, il crée ICT for Dev, une startup spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service des acteurs du monde agricole. Une mission claire: contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines via le numérique et les technologies. Jean Delmas, et oui, est notre invité aujourd'hui dans La Paix en Chanson. Et on ovationne notre invité Jean Delmas, et oui. Bonjour et bienvenue dans La Paix en Chanson. En tout cas, très heureux de vous recevoir.
Plaisir partagé.
Aujourd'hui, on ne parlera pas que de technologie, mais bien sûr, hein, c'est votre vie. On ne peut pas ne pas parler de technologie. D'accord. Mais on parlera surtout de votre parcours, de votre enfance et des valeurs auxquelles vous êtes attaché depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, les échanges seront illustrés par des chansons qui vous boostent au quotidien.
D'accord.
Et dans votre playlist, on a quoi par exemple comme chanson généralement ?
J'aime beaucoup le Zouglou parce que ça a bercé mon enfance. Oui. Nous sommes de la génération 90. On a vu le Zouglou naître, nos aînés chanter, nos tontons chanter. Donc j'adore le Zouglou.
Oui.
Pour faire un peu l'air du temps, on va dire le coupé décalé, parce qu'en ce moment, on était encore là, on était un peu dans... on était entre la vie active et puis la fin des études, donc c'était quand même une époque où on a beaucoup dansé sur ces airs-là. Mmh. Et puis, j'adore le R&B, le reggae, parce que c'est grâce au reggae que j'ai appris beaucoup à l'anglais, parce que j'ai traduisé les chansons de feu Bob Marley et puis Lucky Dube aussi.
Ah ouais?
Ouais. Donc on avait les lyriques,
ouais,
et après on les traduisait, donc c'était pareil pour le R&B aussi. Pour,
c'est ça.
Le funk, un peu old school et autres, tout ça.
C'est ça. Nous sommes avec deux musiciens. L'un est chanteur, et l'autre, il est pianiste. Clovis Akpawano. Clovis, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, très heureux de vous recevoir, Clovis.
Moi également.
Voilà, Clovis, il s'exprime autrement. Hein. Vous allez le comprendre à l'instant. Et puis, Emmanuel Yaté, qui... bien évidemment, a ouvert cette émission avec l'instrumental que vous avez pu reconnaître de Yodé et Siro, La Vie. Et Emmanuel est là. Bon, lui, il s'exprime avec son piano. Hein. Il va nous faire peut-être quelque chose pour marquer sa présence là.
Papa, la vie, c'est mollo.
La paix en chanson.
C'était à l'instant un extrait du titre La vie de Yodé et Siro, qu'on aura l'occasion d'écouter en intégralité au cours de cette émission, parce que cette chanson, justement, je le disais, fait partie des chansons très appréciées par Jean Delmas. Et oui. Alors, on va faire à présent plus ample connaissance avec notre invité pour comprendre d'où est parti cet amour-là, déjà depuis l'enfance, hein, l'amour pour les sciences et l'informatique. Alors, Jean Delmas, et oui, voit le jour où ? Dans quelle localité de la Côte d'Ivoire ou du monde, hein, on ne sait jamais.
je suis bien né en Côte d'Ivoire, je suis né à Yamoussoukro. Mmh. Voilà.
Ouais.
Donc, j'ai grandi à Morophée, ma tendre enfance à Morophée, avant que mes parents n'aménagent à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, pardon. Et j'ai fait tout mon parcours là-bas jusqu'au bac.
Est-ce que vous avez encore en souvenance des moments forts hein, de cette enfance-là, les couleurs par exemple de la vie au niveau de Bondoukou?
Oui, je
Bondoukou. Les fruits.
Oui, Bondoukou, c'était on avait une grande cour, la cour existait encore. D'ailleurs à Djeminisso dans le quartier, il y avait des fleurs. Mon père avait fait planter des fleurs, des roses, des hibiscus et autres. Dans la cour, je me rappelle encore bien de la cour, on avait un portail. Et j'avais des amis, donc j'ai encore les noms en tête, Constant, Grand Willy, je ne sais pas où il se trouve maintenant. Lamine, c'était la belle époque, c'était la belle Côte d'Ivoire. Moi, j'étais Annie Baoulé de parents, il y avait des lobbies avec nous, il y avait des dioulas, et on ne se faisait pas de différence, on était super potes, on jouait ensemble. On allait cueillir des mangues, il y avait une école primaire qui s'appelait l'école Nord. Eux, ils fréquentaient dans une école publique. Moi, j'avais la chance d'aller dans une école catholique, la mission Joseph Pfister, à qui je fais un coucou. Je pense qu'ils ont eu un souci avec les dernières pluies. Donc, on va se mobiliser pour aider à reconstruire l'école. Donc, j'étais enfant de fonctionnaire. D'autres étaient enfants de plantons ou bien de parents qui étaient commerçants. Je n'avais jamais fait de distinction entre eux et moi. J'avais la chance d'avoir des beaux vêtements, eux un peu moins, mais je les considérais comme des frères, des amis, et c'est comme ça que j'ai grandi. Et je pense que cette vie-là m'a apporté beaucoup. Je n'ai pas grandi dans une ville, dans un quartier super chic avec des... Je n'ai rien contre ces personnes-là, mais je pense que mon enfance dans ce quartier populaire de Bondoukou, Djeminisso, m'a apporté beaucoup. Et cela se traduit aussi dans ce que je fais au quotidien.
On viendra justement à ce point-là concernant votre engagement social, hein, puisque vous êtes lancé justement dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mais avant, vous avez... Vous êtes dirigé, vous êtes orienté, vous avez eu de l'amour pour les sciences informatiques.
Bien sûr.
Alors, les sciences, comment vous les découvrez?
Ceux qui ont fait le lycée et le collège avec moi savent que je suis beaucoup polyvalent. J'étais travaillé bien en français, en anglais, en histoire géo, les mathématiques. Mais un peu, je n'étais pas forcément amoureux des mathématiques. Et c'est en quatrième que mon professeur de mathématiques ne comprenait pas pourquoi j'avais de bonnes notes en sciences physiques et puis en mathématiques un peu moins, parce que c'était notre professeur principal, là, comme on le disait. Monsieur Bamba Karim, je ne sais pas s'il est encore en vie, il a été professeur de mathématiques au collège moderne de Bondoukou dans les années 94, 95, 96. Et il m'a dit, il faut qu'on travaille. Donc il a essayé de me booster. Donc, je commençais à avoir de super bonnes notes en mathématiques. En troisième, également, j'ai eu le BPC avec la mention bien. Donc, c'est tout naturellement qu'on m'a orienté en seconde C. Mais j'ai découvert l'informatique en troisième. Comme je préparais mon examen, donc les jours où on n'avait pas cours, je partais dans le bureau d'un oncle pour réviser. Je trouvais le calme là-bas. Ça m'évitait. Je suis beaucoup distrait, donc ça m'évitait d'aller jouer au foot avec mes amis. C'était le moment où je me retrouvais seul. Et j'ai vu la machine, l'ordinateur en question. Déjà, il faut dire que j'aimais aussi toucher à tout ce qui était électronique, les postes radio, la télévision, les choses comme ça à la maison. C'est moi qui réglais. Donc, j'étais déjà très jeune, mais je me penchais un peu plus à ces... Je me rappelle que mon père m'avait offert un Walkman dans son temps. C'était l'un des plus beaux cadeaux. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie quand j'ai vu cet appareil-là. Donc, j'ai vu l'ordinateur et quand il est sorti... Par curiosité, il m'a laissé dans son bureau, donc je l'ai allumé. Et j'ai commencé à le regarder, à toucher un peu. Je ne sais pas ce que je faisais, bon, mais j'étais fasciné par la machine. Et quand il est rentré, il est revenu, il m'a trouvé sur la machine, il était très énervé. Je ne l'avais jamais vu comme ça d'ailleurs. Il m'a dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse la machine. Donc je lui ai dit, mais pourquoi on ne peut pas toucher? Tu me laisses toucher la télévision, ta calculatrice, le poste radio. Il dit, mais ça, c'est une machine assez spéciale. C'est les grandes personnes qui touchent ça. Et je lui ai dit, c'est quoi comme machine? Il m'a juste expliqué que c'était un peu comme une calculatrice, mais elle était plus intelligente que la calculatrice. Elle pouvait faire beaucoup de choses. Et j'ai promis à ce oncle-là que plus tard, je vais... À ce temps, on disait manipuler, maîtriser. Donc, je lui disais que plus tard, je vais tout faire pour maîtriser cette machine également, comme j'essaie de maîtriser la télévision, les postes radio et autres.
Et donc, depuis qu'est-ce qu'il a dit?
Bon, peut-être qu'il a dû prendre ça pour une plaisanterie
d'un gamin.
Donc. Mais moi, je me rappelle encore de ce jour, je me rappelle encore de cette machine. Et puis, je crois qu'on était en 95, 96. Voilà. Et puis, j'ai eu le bac, je suis arrivé au lycée moderne de Bondoukou. On avait encore les coopérants, donc des enseignants expatriés. Mmh. Et il y avait le club Matinfo, Math Informatique, dont je me suis inscrit. Après, j'ai fouillé un peu, je savais qu'on dit ceux qui tuaient la machine. C'était l'informatique, les informaticiens. Donc, on avait un coopérant qui était là, qui était professeur de mathématiques, Almeida Philippe. Je ne sais pas où il se trouve encore, s'il est encore vivant. Mmh. Et il animait le club Matinfo. Il avait un ordinateur portable. Rien que pour cette machine-là, j'étais prêt à suivre le professeur. Je transportais son sac. j'assistais aux réunions du club Matinfo. Et puis, vers la fin de l'année de seconde, il a commencé, vu mon intérêt pour la chose, il a commencé à me montrer comment cette machine fonctionnait. Et j'ai eu mon premier contact avec le langage de programmation Turbo Pascal à l'époque.
Déjà au lycée?
Oui, au lycée en seconde déjà, en fin d'année de seconde. Donc, j'ai commencé à écrire les premiers codes, calculer le périmètre d'un carré, d'un rectangle, ce genre de petites choses-là, faire des déclarations de variables. Donc, il m'expliquait un peu ces choses-là. Voilà. Donc, je pense que c'est de là que mon amour pour l'informatique est né. En terminale, on a eu une conférence au lycée sur l'Internet. Là, j'étais comme émerveillé. On avait reçu des enseignants de l'INP, l'Institut National Polytechnique, qui étaient venus animer une conférence. Faisant partie des meilleurs élèves du lycée, on était accompagné par la CIR, la société CIR à l'époque. Mm-hmm. Donc, on nous avait donné des bouquins. C'est tout naturellement que quand j'ai eu le bac,
ouais,
contre l'avis de mon père qui voulait que j'aille dans la médecine, dans les sciences médicales, comme lui, je suis allé m'inscrire en catimini en informatique. Il a découvert trois mois après.
Vos premiers pas justement à l'université, comment est-ce que cette passion-là commence à se concrétiser dans votre vie, devient un métier justement que vous allez après embrasser?
Il faut dire que tous les développeurs vous le diront, au départ, on ne vient pas au développement d'applications parce qu'on se dit qu'on va gagner de l'argent. On vient parce qu'on aime coder, on aime, comme on dit dans notre jargon, manger du code. Donc, j'arrive en première année BTS. J'ai eu le bac en 99, il y a eu le coup d'État, beaucoup de soubresauts. Donc, les universités, on avait pas mal de soucis. Donc, finalement, j'ai été orienté dans une grande école. Et donc, j'arrive, je tombe sur d'autres passionnés, deux amis, donc, dont l'un est au Canada maintenant, Franck Douampo, à qui je fais un coucou. Lui également, il a grandi à Cocody, il avait un peu... Nous, on est quitté à l'intérieur, c'est vrai qu'on n'était pas en griffe Gaou, mais
ouais,
il avait cette aisance, il connaissait déjà l'ordinateur. Bon. Et donc, je me colle à lui. Et à l'époque, les ordinateurs coûtaient très cher. Mm-hmm. Je n'en avais pas, donc je passe un deal avec le gardien de l'école. Et les soirs, quand les autres rentrent, moi je reste, il me donne la clé de la salle informatique et je reste la nuit pour apprendre tout, que ce soit bureautique, le développement d'applications, la maintenance informatique. Donc je faisais tout. Bon, il fallait préparer le BTS, il n'y avait pas que les matières informatiques, il y avait la compta, il y avait d'autres choses à côté, mais... Je restais tard à l'école pour manipuler, comme on disait.
Pour bien maîtriser
l'outil.
Et est-ce que quand vous finissez votre formation, automatiquement, c'est dans le domaine informatique dans lequel vous baignez directement?
Oui, j'ai eu la chance, j'ai eu le BTS très tôt. Donc, autour de 19-20 ans, j'avais déjà le BTS. Mais à l'époque... les filières courtes, comme on disait, étaient pour des personnes d'un certain âge. Moi, par exemple, j'avais échoué à entrer à l'INP, c'était mon rêve. Mm-hmm. D'ailleurs, je voulais aller reprendre le bac, rien que pour y entrer. Et à l'université, je ne voyais pas de filière informatique. Il y avait la filière maths info. Quand je me suis renseigné, on disait qu'il y avait des mathématiques. J'ai dit non, moi je veux toucher directement la machine. Donc on m'a dit non, si tu veux toucher directement, il faut que tu fasses un BTS là-bas. C'est en 2 ans, tu as le diplôme, tu vas en stage. Donc, Malheureusement, j'avais été, je dis pas malheureusement, mais j'avais été peut-être mal conseillé. Donc, j'ai le BTS à 20 ans, 19, 20 ans. Et là, il faut maintenant trouver du boulot. À cette époque-là, c'est maintenant d'autres peut-être arrivés en terminale. Ouais. Et donc, quand je suis arrivé en stage dans une banque, on m'appelait Biberon parce qu'ils étaient étonnés de voir. Et donc, on ne voulait même pas que je touche les machines. On dit, bon, écoute, fais ton stage rapidement. Et puis,
est-ce que ça vous choquait, ça, ou ça vous motivait?
Ça ne me choquait pas parce que, en fait, moi, je voulais juste apprendre. Donc, même si on m'appelait Biberon, l'idée, c'est que je puisse toucher à la machine, faire ce que je voulais faire. Et puis, on m'a confié un maître de stage. On était à la direction informatique et de la monétique. Donc, j'étais dans mon milieu. Et on travaillait sur nos projets de fin de formation. Mais ils m'ont vu faire des choses. Et mon maître de stage m'a remarqué. On devait faire deux mois de stage. Je suis resté dans cette banque pendant 6 mois, quoi, je crois 8 mois. Et l'un de mes anciens enseignants qui enseignait également à l'INP, à Yamoussoukro, voulait faire ouvrir un cabinet informatique. Et on était, je crois, en 2002. Je suis parti à Yamoussoukro, j'ai quitté la banque parce que je disais que je travaillais beaucoup, on ne me payait pas. À l'époque, c'était, on ne donnait que 10 000. Donc,
par mois
ceux qui ont fait les 2 mois, on vous donnait 20 000. Donc si je restais, en fait, ce n'est pas un salaire, c'est ce que mon maître des stages me donnait. Mais moi, j'étais content parce qu'à la banque, j'avais un ordinateur, j'avais accès à Internet. Ça, c'est important à l'époque. Ce n'était pas tout le monde. Nous, on payait pour qu'on nous crée les boîtes électroniques. Il y avait un seul cyber qui avait un prix abordable pour nous. C'était au Centre culturel français. À l'époque, on payait 1 000 francs, voire 1 500 pour naviguer 1 heure. Donc, j'étais bien content à la banque. J'ai mon ordinateur, j'empruntais le car, le bus de la banque. Je suis un travailleur même sans salaire. Bon, ce n'est pas bien grave. Et puis, quand le professeur m'a proposé de travailler avec lui comme développeur, donc, je suis allé à Yamoussoukro, on a fait 1 mois, on devait revenir à Abidjan parce qu'on avait eu un projet. On est venu le 12 septembre, je me rappelle, et puis le 19 septembre, il y a eu ce qu'on a connu. Donc,
oui.
Le projet est tombé à l'eau, je me suis retrouvé sur le carreau. Et vu mon jeune âge, je voulais continuer les études, je ne voulais pas m'arrêter. Donc je suis allé voir mon père à Bondoukou. Pour lui dire, je souhaiterais faire une école d'ingénieur. Mon père, à l'époque, avec tout le poids familial, tout ce qu'il avait comme parents à gérer, il ne pouvait pas, puisque les coûts étaient élevés. Donc, et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que mon père n'a pas eu le courage de me le dire lui-même, pour me dire, ah, mon fils, je ne pourrais pas te payer ces coûts-là. Il est passé par un oncle. Tonton Rémi, qui vit encore d'ailleurs, j'ai même fait un post là-dessus sur Facebook. Il avait un peu les larmes aux yeux quand il m'a appelé pour me rappeler ça. Et tonton Rémi m'a appelé pour me dire, écoute, ton père m'a demandé de te dire qu'il ne pouvait pas, compte tenu de bon, je ne l'ai pas mal pris, j'ai compris, parce que j'ai vu aussi un peu comment on vivait. À la maison, il y avait beaucoup de personnes, ses frères, ses tantes, des funérailles au village, toutes ces choses-là. Il s'était beaucoup investi dans sa communauté. Il partait au village pour soigner les gens gratuitement. Bon, donc je pense que ça avait un coût. Donc, je suis revenu sur Abidjan. Et puis, j'ai commencé à faire des petits boulots avec mon cousin Serge, qui est du côté de Yamoussoukro aujourd'hui, à qui je fais un coucou. On a commencé à faire des petits boulots. J'ai monté une cabine cellulaire à l'époque. On faisait les cabines, on vendait on faisait la location de DVD, des choses comme ça, des cours à domicile. Et pour ceux qui étaient à Niangon sud à gauche, ancien terminus 39, là, encore là, on était sous notre arbre. Et puis, on faisait le petit boulot. Et j'ai commencé avec mes notes, mes résultats et tout ça, taper un peu à des portes. Et puis, j'ai pu avoir une bourse pour l'école d'ingénieur. La bourse prenait en charge 50% des coûts. Donc, il fallait travailler pour avoir les 50%. Et donc, mon père a su que j'étais à l'école d'ingénieur quand j'étais en deuxième année. Donc, ouais. Ça dit, j'ai fait 2 années de BTS. J'ai fait 1 année, comme on dit, de cherchement. Et puis, l'année qui a suivi, j'ai fait la première année à l'école d'ingénieur. À l'époque, c'était 3 ans. Une première année en tronc commun. Et puis, à partir de la deuxième année, on faisait la spécialisation. Donc, je me suis spécialisé en réseau informatique alors que j'avais fait un BTS en informatique de gestion, ce qu'on appelle aujourd'hui IDEA, informatique et développeur d'application. Mais comme je me disais que dans le développement, c'était des choses que je savais faire, donc
j'avais préféré explorer.
Ouais, explorer d'autres voies.
D'autres voies.
Donc, j'ai fait le diplôme d'ingénieur en informatique, système réseau informatique. Et puis, j'ai fait 6 mois à monter des cybercafés. À l'époque, c'était la mode, les cybercafés, les choses comme ça.
On va marquer une pause en musique, en chanson, bien évidemment. Mais une chanson qui illustre parfaitement ce parcours-là, inspirant, de Jean Delmas Ewi, qui est notre invité aujourd'hui. Yodé Siro, La Vie, qu'on va écouter. C'est avec Clovis Akpawono au chant et Emmanuel Yaté au piano.
C'est mollo, papa, la vie c'est mollo. Malou, faut jamais te presser. La vie c'est mollo. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Oh yeah, la vie c'est mollo. Yeah, la vie c'est mollo. Chacun à son tour, laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Et ça vous, la vie c'est mollo. Maman, la vie c'est mollo. Quand Chito joue au ballon, c'est que l'Océanie est derrière. Toi, ton derrière n'est pas soudé. Depuis, c'est toi qui cherches la bourgeoisie sans gérance. Ah ah, la vie c'est mollo. Papa, la vie c'est mollo. Baloui, yéna tenana. Opa gounio. Yéna tenana. Opa gounio. C'est mollo. Maman, la vie c'est mollo. La vie c'est comme le temps. S'il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir quand la sécheresse va venir. Et la vie c'est mollo. Ma maman m'a toujours dit de ne jamais me presser. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Aujourd'hui c'est tant de mangue, demain tant de goyave. Un jour pour toi va sortir ça. La vie c'est mollo. Papa, la vie c'est mollo. Baloui, elle a tes Opa gounio, yeah, c'est mollo. Maman, la vie c'est mollo. Tayou akro talo moi. Sombilo nandreo. Tayou akro talo moi. J'ai eu Delmaso nandreo.
La paix en chanson sur Radio de la Paix, tous les jeudis après le flash de 15h, rediffusion samedi 20h, et retrouvez la version résumée de l'émission les lundis à partir de 6h05.
La paix en chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly.
La paix en chanson.
Réalisation, Ahmed Morrison.
La paix en chansons.